BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, nous leur consacrerons la première partie de l'émission. Même si, vous allez voir, le programme n'est pas tout à fait celui que nous avions envisagé, mais vous ne serez pas déçus. Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis évidemment, nos études, nos chiffres. N'oubliez pas nos comptes sur les réseaux sociaux, la librairie de l'écho, sur Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, pour retrouver tous les livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, nos invités. Alors, nous voulions continuer à explorer méthodiquement les différentes facettes de l'IA dans cette librairie de l'écho, avec les questions qui sont les questions phares à la fois philosophiques, économiques, sociales. Jusqu'où ira la complémentarité entre l'homme et l'intelligence artificielle? Va-t-elle nous remplacer, décider à notre place, travailler à notre place? Va-t-elle nous tuer ou nous rendre plus vivants? Nous avions deux invités qui étaient prévus. Alors, l'un d'entre eux, eh bien là, c'est Sylvain Duranton. Sylvain, il est le directeur associé senior de BCGX. Vous êtes monsieur intelligence artificielle au BCG, Sylvain. Si, il faut le dire, vous êtes la statue du commandeur de l'intelligence artificielle au BCG. Et vous avez piloté un rapport toujours très attendu, IA at Work, qui sort ces jours-ci et dont nous allons évidemment regarder le détail. Et puis alors, nous avions invité Gilles Babinet qui sort un nouveau livre. On le connaît bien, Gilles Babinet, entrepreneur. Il a co-présidé le Conseil national du numérique. Il devait être dans cette émission. Et là, il y a un quart d'heure, il nous apprend quoi, Gilles Babinet? Eh bien, qu'il est papa. Voilà. Et donc, on souhaite évidemment à toute sa petite famille tous nos vœux de bonheur. On regrette qu'il ne soit pas là, mais ça n'est que partie remise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut parler d'intelligence artificielle sur BFM Business de façon
sérieuse,
parfaite, sérieuse et décontractée? Eh ben, on recourt à Frédéric Simotel. Voilà. Bonjour, donc, bonjour, on va Daniel. Discuter IA, les amis, avec donc Sylvain Duranton, Frédéric Simotel, évoquer les livres. Vous avez lu le livre de Gilles Babinet, Frédéric Simotel. On était plutôt sur des grandes questions philosophiques.
Oui, on se demande si on n'est pas à la naissance d'un nouvel humanisme. Enfin, c'est la question que se pose Gilles Babinet. Donc, dans ce livre qui s'appelle Le péril IA, devenir des machines ou rester vivant, c'est aux éditions Le Passeur. Alors, Le péril IA, ne voyez pas du tout un livre négatif. Au contraire, il dit que justement, c'est le moment de s'interroger parce que ces machines sont en train de s'intégrer à notre vie. Et puis, je crois que on a rarement vu ça. Enfin, si, peut-être avec l'iPhone, le smartphone, mais qui a mis plusieurs années. Mais aujourd'hui, tout le monde, vous croisez n'importe qui dans la rue, il va vous dire qu'il utilise ChatGPT pour préparer ses vacances, pour savoir comment il va s'habiller aujourd'hui, pour savoir comment il doit répondre à son patron. Et puis quand vous rentrez dans l'entreprise, évidemment, il y a tout un tas d'applications autour de la relation client, des process industriels. Et Gilles Babinet, c'est ce qu'il dit. Il dit, attention, est-ce qu'on se laisse entraîner dans ce mouvement et on essaie de faire avec la machine comme on peut? Ou alors est-ce qu'on prend un peu de recul? On continue évidemment à travailler avec ces machines. On prend un peu de recul et on se dit, bah, tiens, comment faire pour que l'humain reste au centre de tout ça et créer ce nouvel humanisme?
Il essaie de trancher quand même des questions fondamentales. Il y a toujours le débat entre ceux qui disent l'intelligence artificielle, c'est une révolution technologique comme on en a toujours connu. Donc, sous-entendu, ça va détruire des emplois, mais ça va en créer plus que ça n'en détruit. Et puis, il y a l'autre camp qui est ceux qui disent, mais attention, cette fois, c'est pas pareil. Et là, Gilles Babinet, il nous dit, attention, c'est quand même la plus grosse révolution anthropologique depuis sans doute l'invention de la sédentarité, depuis que l'homme s'est sédentarisé, ce qui a changé complètement les relations sociales. Et puis, il nous dit, quand même, il y a une question de temps, il y a une question de
c'est surtout
de
ça qui
timing
change.
Dans la révolution. Et il dit, oui, mais attention, il dit, vous avez l'impression que ça va aller de plus en plus vite, mais on voit déjà un certain ralentissement parfois dans dans toutes les contributions que l'intelligence artificielle peut apporter.
Oui, c'est-à-dire que là, on le voit dans l'actualité, on est tous un peu embarqués par tous ces milliards qui sont investis dans l'intelligence artificielle et ça nous donne un peu le tournis. On a l'impression qu'on est pris dans ce tournis sans cesse. En plus, vous avez des acteurs américains notamment qui savent parfaitement communiquer, qui vous sortent une nouvelle version. Ils ont tous les jours, ils ont quelque chose à dire. Donc on a l'impression d'être vraiment dans ce tournis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, elles prennent du recul par rapport à ça. Elles font attention parce que tout ça coûte de l'argent aussi. Hein. Et c'est des milliards, mais il faut que les entreprises elles utilisent tout ce genre de choses. Et puis, de dire à quel point c'est important, et là je souligne ce que vous venez de dire, l'encyclique du pape, Léon XIV, eh bien, elle est sur quoi ? Elle est sur l'IA. Et il est venu lui-même la présenter. Vous savez, Jean-Paul II, il avait fait quelque chose sur le social et les jeunes. Le pape François avait fait quelque chose sur l'environnement. On avait le pape Léon XIII qui, à l'époque, avait dit la nouvelle condition humaine, le nouveau travail. Eh bien là, on a un pape qui, dans son encyclique, dont c'est une lettre d'intention, enfin voilà, quelque chose qu'il envoie à ses évêques, il dit voilà, il faut vraiment réfléchir autour de ça, il l'appelle d'ailleurs Magnificat Humanis, c'est de dire voilà, l'IA, il faut vraiment en tenir compte, on doit, entre guillemets, désarmer l'IA, sous-entendu, il ne s'agit pas de mettre l'IA de côté et de continuer notre vie, non, c'est de voir comment on fonctionne avec l'IA, mais qu'on ne lui donne pas tous les pouvoirs, et justement, l'humain est important. Et là, on rejoint, alors c'est son encyclique, quelque part, à lui aussi, à Gilles Babinet, qui évidemment connaît ça, et puis, en plus, ce qui est bien avec Gilles Babinet, c'est qu'il a le temps de prendre, enfin, il prend le temps de prendre, ouais, du recul, d'échanger beaucoup, et donc de synthétiser tout ça dans cet ouvrage. Et on espère le voir très bientôt venir nous parler de cet ouvrage.
Absolument. Sylvain Duranton, est-ce que toutes les, parce que on va venir à votre étude extrêmement détaillée qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans l'entreprise, mais est-ce que vous vous interrogez aussi, est-ce que vous vous posez aussi les grandes questions philosophiques? J'en évoque trois que soulève Gilles Babinet dans son livre, parce qu'en fait, au cœur de ces trois questions, il y a la problématique du travail à laquelle vous allez répondre. Mais il nous dit est-ce que on va vers la plus grande fracture sociale de l'histoire? Est-ce qu'on va vers la plus grande concentration de richesses de l'histoire? C'est-à-dire que jamais dans l'histoire, aussi peu d'entreprises n'ont créé autant de richesses redistribuer entre aussi peu de personnes, et puis qui détiendra la richesse dans ce monde automatisé. Et au cœur de tout ça, Sylvain Duranton, il y a quand même cette question du travail. C'est-à-dire, est-ce que l'IA va nous remplacer? Comment? Pourquoi? Dans quelle proportion? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à avoir une idée, alors je dis pas claire, mais des convictions au moins sur le sujet?
Alors sur le travail, il y a beaucoup de spéculations, vous l'avez dit, entre des personnes qui disent qu'il n'y aura plus de boulot pour personne, en gros quelques IA feront tout, d'autres qui disent au contraire non, il y aura encore du travail. Nous on a mené une étude récente qui confirme un peu mes convictions sur le marché du travail américain, et sur le marché du travail américain, quand on regarde vraiment l'ensemble des métiers, 4000 métiers passés au peigne fin, si on se met dans une perspective à 3-5 ans, parce que dans 50 ans ce que fera l'IA, je pense qu'on peut spéculer, mais difficile de prendre des positions. À 3-5 ans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie de métiers, en gros 60% pour l'économie américaine, qui ne vont pas être tellement percutés. Ensuite, il y a une partie des métiers qui, eux, vont avoir un gros impact de l'IA. C'est-à-dire que, d'un seul coup, mon métier, ben, je vais le faire avec des assistants IA, ça va être différent, je vais faire les choses différemment. Et après, j'ai des métiers qui vont être en grande partie substitués parce qu'ils s'automatisent beaucoup. Et je pense qu'une des dimensions qui manque dans pas mal d'analyses, c'est que si j'arrive à être assisté, si je suis plus productif, j'ouvre des perspectives aussi de croissance. L'exemple typique, c'est le code. On sait bien que le code, il est de plus en plus automatisé dans sa production. Ouais. Et malgré tout, on continue de voir le nombre de codeurs augmenter aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande pour du code. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des temps d'attente qui sont très longs. Il y a peu de logiciels qui répondent complètement à la demande. On est toujours un peu embêté. Ça ne va pas assez vite. C'est pas complètement bien conçu. Donc, il y a des métiers sur lesquels il y a une grosse expansion possible, puis il y a des métiers sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'expansion, et oui, il peut y avoir des destructions d'emplois. Nous, aujourd'hui, le chiffre, à 5 ans, on parle d'entre 10 et 15% d'emplois qui sont menacés et exposés à une certaine forme d'automatisation. Alors, ce n'est pas la majorité des emplois, donc on n'est pas dans un tsunami de destruction d'emplois dans la société. En revanche, ça veut dire que il y a des transitions à anticiper, mais surtout, la grande majorité des emplois en entreprise vont être transformés, et là, il y a de l'accompagnement à apporter.
Mais ce que vous nous dites, en fait, vous, alors pour le coup, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui disent ce ne sera pas si différent que ça des grandes révolutions technologiques passées.
Ce sera très différent à cause de cette notion de vitesse. Les choses vont beaucoup plus vite que sur les autres innovations. En revanche, la société humaine arrivera à absorber cette innovation comme elle en a absorbé d'autres. Il y a un moment de transition à gérer qui ne va pas être simple pour les entreprises, parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts en entreprise pour arriver à changer la façon dont les personnes travaillent, mais aussi pour la société, parce qu'il va falloir... Il y a une période de transition qu'il va falloir gérer au niveau des pouvoirs publics.
Frédéric Simatel.
Il y avait une étude qui était sortie il y a quelques... disait qu'il faut regarder un peu nos tâches. On peut décomposer nos métiers en plusieurs tâches. Alors, que l'on soit même en col blanc, enfin, même journaliste, on peut dire, voilà, quelles sont les 15, 20 tâches que je réalise par semaine entre mes interviews, faire les émissions, préparer, etc. Et il se disait que quand on se rend compte que 30% de ces tâches sont remplaçables par l'IA. Là, notre métier, il faut vraiment commencer à réfléchir voilà, c'est seulement 30% de ces tâches qui peuvent être dans ma recherche documentaire, dans l'écriture de mes articles, dans peut-être voilà résumer mes interviews. Et si je me dis que 30% de mes tâches peuvent être remplacées, là, il faut que je commence à vraiment commencer à faire. Mais être accompagné à chaque fois, parce que c'est ça un peu le souci aujourd'hui, c'est que c'est pas juste une formation sur l'outil, c'est au quotidien, quoi, presque.
Et sur ce point de bascule, nous, on le situe exactement à 30 ou 40%. C'est la bascule entre un métier dans lequel on s'approche vraiment d'un impact très fort, et à moins de ça, on est plus dans quelque chose qui se gère dans la continuité.
Mmh. Alors, venons-en, Sylvain Duranton, aux grandes conclusions de votre étude sur l'intelligence artificielle au travail. On rappelle, 12 000 répondants, une quinzaine de pays. Moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé. Il y a 4 employés sur 10 aujourd'hui qui utilisent l'IA et ça leur fait gagner une journée de travail. Ouais,
tout à fait. Alors, vous le disiez, c'est l'occasion avec cette étude de débunker, c'est votre mot, un certain nombre d'idées reçues. Je pense que pour attaquer sur celle avec laquelle vous aviez commencé en faisant allusion à la concentration de richesses, etc., ouais. Quelque part, on lit souvent l'IA, ça va renforcer la fracture sociale, c'est un truc de privilégié, et une fois de plus, on va aller dans le mauvais sens pour la société.
En gros, c'est un truc d'intello, de
privilégié.
De diplômé, de CSP+.
Tout à fait.
Et de riche.
Alors, tout à fait. Là-dessus, je pense qu'on est sorti de ce paradigme cette année. Alors, quelques éléments. Le premier, on a aujourd'hui, parmi les employés, vraiment niveau d'exécution dans les entreprises, on a 74% de personnes qui se déclarent utilisateurs réguliers de l'IA.
Ouais.
On avait eu un plateau à 50% pendant 2 ans. On a gagné 22 points en une année. Alors, les cadres dirigeants sont encore au-dessus de ce niveau, plutôt au-dessus de 80%. Mais il y a un phénomène de rattrapage énorme qui se fait. C'est la première chose. Ensuite, quand on regarde en fonction de la taille des entreprises, on se dit toujours, c'est pour les grandes entreprises, pour les petites, c'est moins vrai, etc. Quand on regarde... Ce chiffre de 74% en moyenne pour l'échantillon, il descend à 70% pour les entreprises de taille plus petite de notre échantillon. Alors, on n'est pas sur des petites entreprises individuelles, on est comme sur des entreprises qui sont plutôt des ETI, mais ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Et surtout, on oppose souvent pays riches, pays pauvres, parce que finalement, il n'y a que les États-Unis et la Chine qui vont tirer parti de l'IA et qui vont l'utiliser. Quand on regarde pour l'utilisation, en tête du peloton, l'Inde, premier pays mondial. On ne va pas dire que c'est un pays particulièrement privilégié. Les 3 lanternes rouges, les États-Unis, l'Italie et la France. Donc, on n'est pas dans un monde où aujourd'hui, c'est les pays de l'Ouest, disons, qui avancent le plus et qui en tirent le plus parti au niveau de leurs employés. Mais c'est aussi dans le Sud global. Donc, première idée reçue, c'est un truc de privilégié. L'étude répond clairement non.
C'est un truc de gens qui en ont besoin.
Qui en ont besoin et qui en ont envie.
Ouais. Alors, l'autre idée qui est souvent véhiculée, qui est finalement l'intelligence artificielle, ça déshumanise un peu le travail, ça isole finalement les travailleurs. Et vous dites non, c'est pas ce qu'on voit à travers l'enquête.
Alors, c'était une des grandes questions qu'on avait. Parce qu'il y a tout un tas de discours là-dessus pour se rendre compte si finalement, est-ce que les gens qui l'utilisent, ils sont plus contents qu'avant ou moins contents qu'avant. Le chiffre, moi, qui me frappe énormément, c'est qu'on a 57% des utilisateurs qui disent « Moi, j'ai plus de satisfaction au travail grâce à l'IA. » Dans les utilisateurs
réguliers. Je suis plus heureux au travail.
Je suis plus heureux au travail. Et c'est entre 3 et 4 fois plus que les gens qui disent « Je suis moins heureux. » Donc, au total, on a une vraie augmentation de la satisfaction au travail. D'abord et avant tout, par rapport à ce que vous disiez, qui est 42% des gens économisent un jour par semaine de tâches fastidieuses qu'il fallait faire, qu'on répétait, etc. Exactement ce que vous disiez, Frédéric. Ben, ces tâches-là, il y en a une partie qui disparaît. Un point intéressant sur la France, ce 42% mondial, en France, on n'est qu'à 20% de gens qui déclarent « Voilà, moi j'ai pu économiser l'équivalent d'une journée de travail par semaine. » Donc, on est vraiment sur quelque chose qui, pour les personnes, apporte beaucoup plus de satisfaction au travail que d'angoisse ou de sujets de ce type. Et là, ce n'est pas idéologique, ce que je dis, ce n'est pas anecdotique, c'est fondé sur les chiffres, comme vous disiez, d'une étude auprès de plus de 12 000 salariés.
Oui, moi j'ai deux exemples. Voilà. Moi, je vais parler de mon métier. Hein. J'ai deux exemples. Il y en a un premier. Alors, tout ça réglé avec conclu avec la RH, la direction juridique. J'ai créé un avatar. Un avatar, le mien, voilà, j'ai été filmé dans différents endroits. Et aujourd'hui, cet avatar me permet de faire des bandes annonces. C'est-à-dire, je dis, voilà, bonjour, vous êtes avec l'avatar de Frédéric Simotel, retrouvez-moi cet après-midi, retrouvez-moi ce soir dans la librairie de l'Écho. On parlera d'IA, etc. Et donc, alors, on peut me rétorquer, ah oui, mais là, comment tu faisais avant? Tu devais prendre un studio, tu avais un ingénieur du son, tu avais un preneur, un preneur d'image, il y avait un réalisateur, etc. Non, on le faisait plus. Parce que les gens se déplaçaient pour 2 minutes de bande-annonce et 3 personnes en termes de coûts, et même eux, en termes de satisfaction au travail, ils ne trouvaient pas ça très intéressant, ils préféraient mieux préparer leurs émissions. Eh bien, voilà, là typiquement, aujourd'hui, ces bandes-annonces sont faites. Moi, ça me satisfait parce que, justement, elles sont réalisées. Ça n'enlève pas du travail aux autres parce qu'on ne le faisait pas de toute façon, et puis eux, ce n'était pas très satisfaisant. Et autre chose aussi, alors là, c'est plus à titre individuel, quand on prépare ce type d'émission, souvent, voilà, on fait les interviews en amont. Alors, si on a une table ronde, on a 3-4 personnes. Alors, on fait les interviews. Après, on cherchait comment articuler avec les uns les autres. On fait faire tout ça par l'IA, une fois qu'on a tous les thèmes. Hein. Alors, il n'y a pas un manque de créativité, puisque les questions, c'est nous qui les posons, c'est nous qui avons réfléchi. L'IA va organiser, va nous proposer différentes formes d'organisation. Et là, on va aller chercher celle qui nous intéresse. Notre travail de créativité va arriver.
Attendez,
là, je gagne 60% de temps.
Oui, mais ce que vous décrivez tous les deux, moi, je veux bien, c'est quand même des gains de productivité considérables, oui. Sauf que, les amis, aujourd'hui, dans les chiffres, on ne les voit pas, ces gains de productivité. On se retrouve avec un nouveau paradoxe de Solo, que, finalement, l'intelligent... la productivité, on la voit partout dans les machines, mais pas dans les statistiques. Mm-hmm. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'IA, elle est partout, sauf dans les statistiques de productivité aujourd'hui.
Je prends juste 30 secondes. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ce temps de productivité, ce temps-là me permet non pas d'arrêter à travailler à 5 heures du soir, mais me permet de faire des choses que je ne faisais pas avant, mais je ne le disais pas. Voilà, tout simplement. Il y a plein de choses que je ne faisais pas. Je disais oui, ou alors je les faisais très vite et tout ça, pas satisfait de mon travail. Et là, aujourd'hui, j'ai le temps de faire tout ça et on est toujours embarqué dans plein de nouvelles tâches.
C'est Frédéric, ce que vous dites là, c'est exactement les messages qui ressortent de l'étude. D'une part, il y a toujours la question, mais finalement, l'IA, est-ce qu'on est asservi à une machine et du coup, on réfléchit plus? Le retour des utilisateurs, c'est on réfléchit plus.
Oui.
Il y a toute une partie du boulot qui est automatisée, mais du coup, je prends plus de décisions, je fais mieux des choses que je n'avais pas le temps de faire auparavant. Et au total, une grande majorité des utilisateurs disent, en fait, la barre en qualité monte. On fait des choses qui sont de meilleure qualité. Et donc, l'IA ne rend pas moins intelligent, n'abêtit pas les gens si elle est bien déployée.
Oui.
L'autre chose sur la productivité, non seulement on a des gains de productivité, on a 55% des utilisateurs qui nous disent, écoutez, moi, oui, j'arrive à créer de la valeur, je suis utilisateur régulier, moi, je crée de la valeur avec l'IA, j'utilise régulièrement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que souvent, on se dit, il va y avoir une espèce d'arbitrage, plus de productivité, mais on fait un peu moins de satisfaction au travail. Et pour moi, ce qui est le plus intéressant dans toute l'étude, c'est qu'on voit que d'avoir de l'impact, ça rend les gens heureux, et les gens sont heureux lorsqu'ils ont de l'impact. En gros, si vous regardez les gens qui déclarent « moi, dans mon boulot, j'arrive à faire plus, j'arrive à faire mieux, j'ai de l'impact, c'est mesurable », exactement ce que vous disiez, Frédéric. On en a, quand on prend l'échantillon des gens qui disent « j'ai de la satisfaction au travail », on en a 50% de plus qui disent « oui, moi, j'ai de l'impact ». Et c'est la même chose quand on regarde ceux qui ont de l'impact, en moyenne, ils sont beaucoup plus heureux que les autres. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux à engager là.
Plus d'IA, c'est moins de bullshit jobs, en fait.
Oui, mais il y a un gros mais, plus d'IA accompagné.
Voilà,
c'est là qu'on est sur le gros sujet. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants qui nous disent écoutez, j'ai investi, ça me coûte cher, les tokens, regardez, la facture, etc. Exactement ce que vous disiez, Emmanuel. Du coup, j'aimerais bien le voir un peu plus dans mon compte de résultats. Voilà. On est un peu dans la situation où on a acheté des belles voitures à tout le monde, mais on a appris à personne à conduire. C'est un peu ça la situation. Ouais. Et on a 86% des salariés aujourd'hui qui nous disent bah, « Écoutez-moi, je vois que ça change tout, les agents arrivent, il y en a deux fois plus que l'an dernier d'ailleurs des agents, je pense que les agents ils vont changer au moins 50% de mon travail ». Maintenant, j'ai pas été suffisamment formé.
Ouais. Alors moi, ou alors on leur a appris à conduire, mais on leur a pas appris le code.
Ou surtout le code de la route, la carte de France pour savoir ouais, où on va.
Ils savaient aller.
Moi, j'étais frappé quand même. Alors par l'étude qu'a publié un de vos concurrents, qui est PwC, étude qui dit sur la base de 1200 témoignages de dirigeants, 20% des organisations concentrent à elles seules 74% des gains de l'intelligence artificielle. Donc, c'est bien dans la façon dont on l'implémente et dont on la met en œuvre que se jouent finalement tous les leviers d'efficacité et de productivité.
Je confirme à 100% le chiffre. On est vraiment sur ces ordres de grandeur, Emmanuel. Mais pour moi, c'est pas simplement dire c'est concentré dans certaines organisations. C'est plus profond. Tout le monde a à peu près accès aux mêmes offres technologiques et certaines entreprises y arrivent, d'autres pas. La différence, c'est pas l'appétit des employés à apprendre à changer comme on l'entend souvent. C'est est-ce qu'on a un leadership courageux qui à un moment a pu dire je vais faire des vrais choix, je vais faire de la vraie stratégie et décider c'est choisir, la stratégie c'est des choix. Je vais chercher deux ou trois endroits où je vais passer à fond à l'IA et je vais pas faire plaisir à tout le monde. Je vais choisir mes fournisseurs, je vais pas bosser un tout petit peu avec tout le monde juste au cas où. Non, non, je choisis mes fournisseurs et je mesure parce qu'on a beaucoup de situations aujourd'hui où on n'ose pas mesurer, on n'ose pas s'engager sur des vrais enjeux économiques parce qu'on a peur de pas y arriver. Et là, on a besoin de courage. Et c'est pas un hasard si on a aujourd'hui, là, une étude qu'on avait faite pour Davos cette année, 72% des CEO qui disent maintenant l'IA, ça suffit, je vais m'en occuper moi. On a besoin que les patrons reprennent la main.
Une toute petite chose aussi, il faut repenser aussi l'organisation de son entreprise. C'est fini l'organisation classique sur laquelle on met une couche d'IA. On doit complètement revoir tout ça. Je parlais l'autre jour à des personnes qui font la vérification de notes de frais. Donc ils avaient des outils pour vérifier les notes de frais, mais il y avait quand même 9-10 personnes dans ce grand groupe qui vérifiaient les notes de frais, les factures, que tout correspondait. Aujourd'hui, tout ça a été IA-tisé. Voilà, ça a été agentifié, automatisé. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on leur fait comme travail? Mais les 9 qui faisaient ça, mais ça les barbait de regarder si la facture correspondait bien à tout ça. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Eh ben, ils font de l'analytique, ils remontent les données, ils sont en train de remonter tout ça. Mais par contre, ça veut dire que tous ces gens-là qui dépendaient d'une personne responsable des notes, ben, ils ont été dispatchés ailleurs, ce service n'existe plus, donc il a fallu repenser cette organisation. Voilà, c'est un tout petit
alors,
exemple.
Il y a quand même des phénomènes, les amis, là, qui montrent qu'on touche quand même certaines limites. Vous avez maintenant des entreprises qui se rendent compte que la création des agents, la substitution finalement entre l'humain et l'IA finit par coûter plus cher que quand on utilisait les humains.
Oui.
C'est-à-dire qu'avec avec tout ce que coûte, puisqu'on peut rappeler le principe de paiement quand on utilise une intelligence artificielle, un agent, hein, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Un agent, c'est finalement comme si vous aviez un employé virtuel. Un assistant qui fait le travail à votre place, sauf qu'on se rend compte que ça coûte plus cher que la personne physique.
Bien sûr, alors ça c'est un des sujets qui me tient beaucoup à cœur. Il y a ce qui est en train de se passer, c'est ce que j'appelle la token-based competition. Le coût des tokens, si vous prenez des startups ou des entreprises, même scale-up IA native, ce coût de l'utilisation de l'IA, ça peut être de 15 jusqu'à 50-60% du chiffre d'affaires. Pour les grandes entreprises, on en voit certaines qui commencent à arriver à un point de chiffre d'affaires. Donc c'est un enjeu énorme. Et là, il y a plusieurs enjeux. Il y en a un qui est de se dire il faut acheter les bons tokens, les bonnes architectures pour ne pas en gaspiller, etc. Mais la principale chose, ça reste la clarté stratégique.
Les tokens, c'est les jetons qu'on paye pour
pouvoir faire tourner l'IA.
Pour faire des requêtes, etc.
Pour faire tourner l'IA. Dès qu'on fait une requête, c'est un token.
Voilà, il faut payer. En gros, c'est en fonction de la longueur de votre question et c'est en fonction de la longueur de la réponse que tout ça s'est facturé. À la fin, on ne va pas mettre de l'IA partout, au max, dans toutes les fonctions de l'entreprise. Je reviens sur la notion un peu de décision et de clarté stratégique. Il faut choisir là où on est convaincu qu'on a un vrai retour et il y a des endroits où le retour, il va pas être très intéressant.
Mais est-ce qu'il va pas se passer ce qui s'est passé pour Internet? C'est-à-dire que au début d'Internet, on payait à la minute d'utilisation. Parce que là, du coup, ça fait un transfert de valeur considérable vers les prestataires d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va pas vers une forfaitisation, une chute de ces coûts? où vous pensez que...
Aujourd'hui, quand on voit les montants d'investissement en jeu, il y a une question qui est, est-ce que finalement on va continuer sur ces types de coûts ou pas? Est-ce que ça va beaucoup changer? Là-dessus, il y a plein de scénarios qui peuvent se passer, être beaucoup plus efficace dans la façon dont on monte les infrastructures et du coup les coûts baissent. D'autres personnes disent à un moment donné, il va falloir, pour payer toutes ces infrastructures, on ne voit pas bien comment on va faire. Je pense que dans tous les cas, pour les entreprises, le message c'est, soyez très préoccupés du retour sur investissement de vos tokens, parce que ça va être un facteur clé de compétitivité et un critère clé de décision dans le choix des fournisseurs, des solutions, des endroits où je déploie l'IA.
Et moi, je conseille d'aller écouter l'audition parlementaire de Arthur Mensch. C'était il y a quelques jours auprès de, alors trop peu de députés, mais enfin cette vidéo a été vue des centaines de milliers de fois, où il explique parfaitement comment aujourd'hui ce lien entre énergie et token, et il fait même le lien avec les salariés, combien un salarié coûte en token, etc. Et c'est hyper intéressant parce que ça montre vraiment cette économie. C'est-à-dire, c'est bien. Vous savez, vous êtes une entreprise de 20 000 personnes. Si tout le monde se met à faire de l'IA et avoir ne serait-ce que, 10 agents par personne. Bah, tout d'un coup, vous vous retrouvez à la tête d'une entreprise de 200 000 personnes. Comment vous faites pour infrastructure, d'énergie, infrastructure numérique, il y a plein de questions à se poser.
Sylvain, on arrive au bout de l'émission, mais est-ce qu'on n'est pas au bout de la logique de l'IA générative qui, à partir de ces quantités de calculs qui sont faites, consomme des quantités d'énergie considérables? Est-ce que il y a pas d'autre façon de penser l'intelligence artificielle pour qu'elle consomme beaucoup moins d'énergie? Alors il y a des pistes en ce moment, mais est-ce que ça vous paraît prometteur ou est-ce que ça vous paraît un futur très lointain?
Alors je pense que oui, on va changer la façon dont on va déployer l'IA pour le déployer l'IA là où ça compte, là où on a un vrai retour. Maintenant, je pense aussi qu'on est très loin d'avoir déployé l'IA partout où c'est pertinent. Oui. Et je pense qu'on va continuer à avoir une grande expansion du périmètre et des choses qui sont
faites. Y compris dans la gestion de l'énergie.
Oui.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Frédéric Simotel qui nous a brillamment présenté le livre de Gilles Babinet, Le péril IA. Et puis Sylvain Duranton, donc le patron de BCGX, la cellule spécialisée dans l'intelligence artificielle. Lisez ce rapport sur... IA at work, vous en apprendrez énormément sur l'intelligence artificielle au travail. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons avec le coup de cœur de la rédaction, des chiffres, des études. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis, grand animateur de la rubrique livre aussi dans Alternative Économique, le magazine, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président de la Société d'économie politique, dont il est aussi le critique attitré. Messieurs, vous avez choisi cette semaine de consacrer ce débat au livre, au nouveau livre. Alors, est-ce que c'est vraiment un nouveau livre? On va en discuter. De l'économiste Branko Milanovic, qu'on avait reçu déjà, bien sûr, dans la librairie de l'écho. Ça s'appelle « Le monde à l'ère capitaliste ». C'est aux éditions du Cherche Midi. Branko Milanovic, mondialement connu pour sa célèbre courbe de l'éléphant. Jean-Marc, présentez-le-nous un peu, Branko Milanovic.
Alors, Branko Milanovic, son nom d'ailleurs l'indique, il est d'origine serbe, il est né à Belgrade en 1953, et il a grandi d'ailleurs dans la Yougoslavie à l'époque du maréchal Tito. Et puis, après la chute du mur de Berlin, et il a rejoint le monde universitaire occidental. Il a été très longtemps un des membres de la Banque mondiale, enfin, un des chercheurs de la Banque mondiale, où il s'est spécialisé effectivement dans les études des inégalités. Et faisant le bilan de l'évolution des inégalités après la chute du mur de Berlin et après les années de redéveloppement de l'Europe de l'Est qui ont suivi, il a tracé une courbe qui donne l'évolution du niveau de vie, l'évolution du pouvoir d'achat des différents groupes d'individus par déciles.
Et donc ça donne. On va vous la montrer à l'écran, cette courbe.
Voilà, ça donne une courbe qu'on appelle une courbe de l'éléphant parce que ça, il y a une montée. Donc le revenu des gens les plus défavorisés a plutôt tendance à s'être amélioré. Donc il y a une, et notamment dans le bas. Donc au début, ça s'améliore pas beaucoup. Puis là, vraiment, ça s'améliore chez les gens qui ont un travail, qui sont véritablement insérés dans la mondialisation.
Et on voit que c'est aux classes moyennes des pays émergents. que la mondialisation a le plus profité.
Et donc, ça fait la bosse de l'éléphant. Puis ensuite, on baisse le long de la tête de l'éléphant. Et donc, les classes moyennes des pays développés, au contraire, ont subi la concurrence des pays émergents. Et donc, elles ont vu leurs revenus plutôt stagner ou augmenter moins brillamment que celle des classes moyennes, que celui des classes moyennes des pays émergents. Et puis, il y a la trompe.
La trompe remonte.
Et donc, les gens les plus riches, qui ont été donc les grands bénéficiaires de la mondialisation, eux, leur revenu a augmenté. Alors, cette courbe de l'éléphant est devenue le symbole, effectivement, à la fois de ses travaux et de l'évolution de l'économie mondiale depuis la chute du mur de Berlin. Il l'a un peu amendé en disant que c'était moins net maintenant, que la trompe se baissait un peu, que la tête de l'éléphant était moins plongée. Mais enfin, la courbe de l'éléphant reste le symbole à la fois de ses recherches et de cette évolution de l'économie mondiale.
Et donc, Le Monde à l'ère capitaliste, son nouveau livre, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un nouveau livre?
Alors, c'est la traduction d'un livre qui a paru en anglais, qui est la traduction qui est faite par Peggy Sastre, c'est-à-dire une journaliste, essayiste, c'est pas une traductrice banale, je dirais, entre guillemets, sans vouloir la flatter. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des études de philosophie. Donc, la traduction est à la fois proche de ce qu'a écrit Branko Milanović, mais aussi avec une espèce d'interprétation un peu. Donc, on voit bien que la traduction a été bien travaillée. Et c'est pas une œuvre en tant que telle, c'est plutôt une compilation, un florilège de différents articles sur 15 ans, ce qui fait que c'est un livre qui traite énormément de sujets. On commence par des considérations sur la décroissance, sur le moyen de lutter contre le réchauffement climatique, sur le fait que il va falloir concilier, effectivement, selon une expression célèbre, la fin du mois avec la fin du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander systématiquement aux populations des pays occidentaux de se sacrifier et d'accepter une baisse drastique de leur niveau de vie au nom du réchauffement climatique. Et puis après, on part un peu dans tous les sens. Alors, ce que j'ai trouvé assez remarquable, il est serbe, donc il est très attaché à l'héritage orthodoxe byzantin. Donc, il y a un article où il célèbre la gloire de l'Empire byzantin à l'occasion de l'anniversaire de la chute de Constantinople, le 29 mai. Donc, il publie un article en disant que on n'a pas compris ce monde magnifique et idéal qu'avait été l'Empire romain d'Orient. Et il y a un autre article sur Adam Smith. Donc ça part un peu dans tous les sens. Il y a quand même, pour moi, une cohérence. La première cohérence, effectivement, ses travaux sur les inégalités. Il reste autour de cette idée que l'inégalité est une inégalité qui doit être analysée de façon un peu plus fine. Et la deuxième cohérence, j'ai trouvé, c'est qu'à plusieurs reprises, il y avait une promesse après grosso modo, après la chute du mur de Berlin, qui était l'affirmation d'une démocratie libérale. Or, cette démocratie libérale est devenue ce qu'il appelle une plutocratie illibérale. Et en face de ça, est apparue une opposition qui se voulait, là aussi, un modèle d'ordre, d'organisation, et qui est en fait devenue une kleptocratie paranoïaque, dit-il. C'est-à-dire, les gens comme Poutine, les dirigeants iraniens, ce sont des kleptocrates, et en plus, totalement paranoïaques. Donc, ils ont cette capacité à générer du conflit qui les rend encore plus dangereux que ce qu'on ne pouvait considérer au départ.
Christian Chavagneux, votre commentaire.
Il y a deux Branko Milanović. En fait, il y a celui dont vous avez parlé, Emmanuel, c'est-à-dire celui de la courbe de l'éléphant, celui qui, avec James Galbraith, puis surtout Tony Atkinson, Thomas Piketty, travailler sur les inégalités alors que la doxa économique disait que c'est pas un sujet. Et grâce aux travaux de Milanović et de ses trois autres, et Milanović a fait un vrai travail structurel, empirique, de long terme, analytique sur les inégalités. Et ça, c'est un travail absolument remarquable. Mais comme souvent, ça arrive chez les gens qui font un travail remarquable et qui sont connus au niveau mondial, il considère qu'il est spécialiste de tout, en fait.
Ah oui.
Et que l'histoire du capitalisme n'a aucun secret pour lui et tous les ressorts de l'histoire du capitalisme. Donc, il avait déjà, après le livre sur les inégalités mondiales, sorti un livre qui s'appelait « Capitalism Alone », qui était déjà très, très bizarre, parce qu'il nous disait qu'il n'y avait plus qu'une sorte de capitalisme, enfin, deux sortes, une sorte libérale et une sorte autocratique, premier états-unien, deuxième chinois. Bon, déjà, c'était un peu bizarre, parce que d'un coup, on ne parlait plus du tout de capitalisme, on partait sur les migrations, sur la corruption, ça partait déjà dans tous les sens. Donc, la question, c'était, et celui-là, c'est quel Milanović qui va parler? En fait, les deux, moi, j'ai été quand même assez déçu par ce livre, parce que je pensais que c'était une approche générale, mais vous l'avez dit tous les deux, c'est une compilation de textes de blog sur 10 ans. Donc évidemment, on se répète, hein, sur 10 ans, on a tous nos sujets préférés. Donc cette compilation fait que, ça je l'ai déjà lu quelques pages avant, c'est une compilation de toutologues. Il va nous expliquer le monde dans tous les sens, il fait de l'analyse politique russe, de l'Empire byzantin, à peu près de tout et n'importe quoi. Et c'est toujours très négatif. Il n'y a pas vraiment des textes qui disent ah là ce gars-là qui n'est pas moi a une idée géniale. C'est toujours lui s'est trompé, lui ça va pas, lui c'est n'importe quoi, lui c'est pas bien, lui c'est pas bon, lui c'est historiquement c'est toujours très négatif. Et donc c'est un peu déprimant à la fin. Pour autant, ça ne veut pas dire que, enfin moi il y a plein de textes avec lesquels je suis plutôt en accord, mais c'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre le capitalisme mondial et sa dynamique, c'est pas vraiment chez Milanovic qu'il faut aller, en tout cas dans ce livre-là. Par contre, il y a quelques pages là, je suis d'accord avec Jean-Marc. Et qu'il y a quelques pages dans lesquelles il parle des économistes, là, je trouvais les plus intéressantes. Il parle des physiocrates, il parle de l'âme suisse, il parle de Ricardo, il parle de Marx. Mais alors, de temps en temps, bon, il nous dit sur ses auteurs des choses intéressantes, des commentaires, mais il se pose des questions quand même un peu bizarres. Il nous dit, on sait qu'Adam Smith a pris un jeune lord, il lui a fait faire son tour d'Europe, ils sont passés par Toulouse. Et la question que se pose Milanovic, c'est, au fait, le soir, une fois que le jeune lord, il était couché, il faisait quoi, Adam Smith? Bon, ok, mais c'est une question quand même un petit peu particulière. Alors, plusieurs fois, Milanovic nous dit, moi, je suis souvent tout seul le soir, je vais dîner tout seul au restaurant. Alors, peut-être que par homothésie, il se dit, et Smith, quand il était tout seul le soir,
c'est sympathique, les soirées d'économistes.
qu'est-ce qu'il faisait tout seul à Toulouse? J'espère qu'il se prend pas pour Adam Smith, c'est que c'est vraiment, il se disait, comme moi, je suis tout seul de temps en temps le soir, qu'est-ce que lui fait? Alors, il dit, au fait, Marx, s'il avait pas rencontré Engels, est-ce qu'on aurait eu la suite du livre 1 du Capital? J'en sais rien, mon gars. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, peut-être ça aurait été 100 ans après, peut-être que Marx aurait vécu plus longtemps et l'aurait publié. Il se pose des questions quand même assez bizarres de temps en temps. Bon, à part ces quelques pages amusantes, et bref, vraiment, alors, ces pages sur les inégalités, tous ces posts sur les inégalités, ces posts sur les économistes, franchement, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a évidemment, dans 500 pages,
il y avait toujours des idées. Sur l'immigration aussi.
Il y a toute une partie sur l'immigration, oui.
Et une partie qui est beaucoup mieux que ce qu'il avait fait dans Capitalism Alone. Ouais. Dans laquelle il nous disait quand même les migrants arrivent, ça dérange les populations locales, donc la solution, c'est il faut les trier. Bon, faut pas qu'on en ait trop qui viennent d'une seule nationalité. Et puis, on va leur donner moins de droits. On veut en faire des sub-citizens dans le texte. Ouais. Ce qui était quand même une proposition assez bizarre. Là, j'ai trouvé que les pages sur l'immigration étaient un peu plus respectables.
Jean-Marc Daniel.
Oui, ce qu'il faut utiliser dans ce livre, c'est le sommaire au début. C'est-à-dire, oui, il faut regarder exactement.
On fait son tri,
Et puis, on fait son tri, parce que les titres de chapitre sont assez bien conçus. Ils décrivent assez bien ce qu'il va y avoir dans le... Ouais. C'est pas des résumés, mais enfin, on comprend assez vite ce à quoi on doit s'attendre. Et comme ça, alors, on fait son marché. Et donc, on commence en disant, voilà, tiens, je vais parler un peu de décroissance. Je vais aller voir ce qu'on peut faire à Toulouse le soir au XVIIIe siècle. Et donc voilà. Et donc on avance comme ça, ce qui fait que c'est un livre qu'on se dit pas cette semaine je vais lire le dernier Manco Milanovic. On le met sur son.
Mais c'est vrai qu'il appartient à cette famille, enfin pas famille, mais à cette catégorie d'économistes qui sont devenus mondialement célèbres pour une idée.
Ouais.
Je pense l'affaire avec sa courbe. Branko Milanovic avec sa.
Ça courbe aussi.
Ça courbe aussi de l'éléphant. Et donc, c'est une forme de postérité qu'il aurait acquise pour un travail, en fait.
Oui. Ça lui donne le droit, et Christian l'a dit, de devenir toutologue. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu un problème. C'est-à-dire qu'il répond aussi à une attente. On va le chercher en lui demandant qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que. Et donc, d'ailleurs, il y a certains textes où il dit voilà, effectivement, on m'a demandé ça, voilà ce que j'en pense, où il essaie d'être relativement humble dans sa façon de présenter son opinion, mais où, quand même, il prend position.
Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre invité porte-drapeau de l'étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
C'est celle menée par le cabinet Asterès et le think tank Écologie Responsable, tous deux dirigés par l'économiste Nicolas Bouzou, avec qui nous sommes en ligne. Bonjour Nicolas.
Bonjour Emmanuel.
Étude donc qui porte sur le coût de l'électrification en France. On peut, allez, donner les grands chiffres, Nicolas, d'abord. Pour vous, l'électrification telle qu'elle est programmée aujourd'hui, c'est une facture à 70 milliards d'euros par an.
Ouais. En fait, l'électrification, c'est super. Il faut électrifier au maximum. Moi, je suis à fond pour tout un tas de raisons. Il y a un petit angle mort du débat public, c'est le coût d'électrification dans la mesure où les pouvoirs publics ont donné des objectifs temporels qui sont extrêmement rapides. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait dans l'étude, c'est qu'on s'est calé, alors pardonnez-moi pour le langage techno, hein, mais sur ce qu'on appelle la stratégie bas carbone 3,
ouais,
qui fixe des objectifs ambitieux à l'horizon 2030. Et donc, faut pas se tromper, hein, c'est super et il faut le faire. Simplement, il faut sans doute qu'on réfléchisse de façon un peu plus approfondie à la façon dont on va avaler ce coût. Voilà, parce que 70 milliards d'euros par an, c'est beaucoup d'argent. Pour les ménages, on va dire 30 milliards bruts, et si on enlève les économies qui sont faites parce qu'on va utiliser moins de fossiles, on sera quand même peut-être à pas loin de 20 milliards par an. Là-dedans, hein, il y a à la fois le coût des investissements, par exemple pour les ménages, changer la voiture, mettre une pompe à chaleur, etc. Et le coût des achats, et de la facture d'électricité, en fait. Hein.
Donc il y a les deux. Concrètement, pour qui la facture est la plus lourde ? C'est pour les ménages que la facture est la plus lourde ?
Ouais, c'est pour les ménages, et en particulier pour les ménages qui vont changer, qui devront isoler leur maison, leur logement et changer leur chaudière. Si vous n'avez qu'une voiture à changer, je dirais à la limite c'est absorbable. Mais pour eux, on va dire dans le pire des cas, on a un coût par ménage net, hein, c'est-à-dire après les économies sur les énergies fossiles, qui est supérieur à 3000 euros par an. Donc vous voyez ce que je veux dire, Emmanuel, c'est il faut quand même qu'on réfléchisse à ça. La stratégie, elle est la bonne. Le gouvernement a mille fois raison. Alors, on n'est pas les premiers à dire ça, d'ailleurs, hein, parce que France Stratégie avait déjà fait une étude, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quelques années, qui portait sur ce coût. Nous, on l'a un peu actualisé, on a ajouté le coût pour l'industrie, etc. Et donc, il faut qu'on ait quand même une réflexion sur ce coût. Pour l'industrie aussi, par exemple, hein, l'industrie, il y a des questions de compétitivité qui se posent. Le coût, il est de l'ordre de 3,5 milliards d'euros par an. Voyez. Donc, voilà, attention à ça.
Et on voit bien, Nicolas, que, en fait, toute la réussite va reposer sur la capacité à mettre en place des dispositifs qui vont permettre, oui, financièrement à ceux qui n'en ont pas les moyens de justement d'opérer cette transition. C'est peut-être là qu'il va falloir être le plus inventif finalement.
Alors là, je bois vos paroles, Emmanuel, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qui m'inquiète un peu dans notre affaire, et en fait, on le voit déjà, c'est qu'il y a pas mal de gens un peu démagos, un peu populistes, qui commencent à dire « Ah, mais attention, l'électrification, c'est très cher, faut pas le faire. » Vous voyez ? Donc j'entends déjà cette musique. C'est pour ça que je dis « Attention, si on veut pas tomber là-dedans et si on veut pas avoir une espèce de retour de bâton un peu à la gilet jaune, si vous me pardonnez cette expression, il faut en effet qu'on mette en place ces dispositifs, qu'on les mette en place assez rapidement.
Vous dites que la transition vers l'électrification des usages va s'accompagner aussi d'une recomposition significative du marché du travail.
Oui. Bah oui, parce qu'en fait, tout ceci coûte extrêmement cher. Il y a des questions qui sont liées à la mobilité, hein, qui n'est pas neutre. Et donc, en fait, la question, elle est complètement systémique. Donc, ces dispositifs d'accompagnement pérennes, financés, il faut vraiment les mettre en place. Si on y arrive, c'est super, parce qu'on sera l'un des premiers pays à avoir fait ça aussi rapidement, de façon aussi forte. Puis nous, on y a intérêt, parce qu'en plus, on est des très gros producteurs d'électricité.
Mais est-ce que vous pensez que dans le pays qui est quand même le pays de la créativité fiscale, on va être capable de mettre en place des dispositifs qui ne soient pas compliqués, qui soient compréhensibles, qui finalement soient efficaces et qui ne changent pas tous les deux mois ?
La façon dont vous posez la question suggère que vous attendiez une réponse négative de ma part, que je serais assez tenté de vous donner, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce type d'études et que vous faites ce type d'émission. C'est justement pour qu'on essaie de réfléchir à des dispositifs qui soient simples, qui soient pas pénalisants fiscalement. Après, ça c'est pas le cœur de l'étude, mais moi je pense qu'on peut inventer des systèmes financiers, enfin des systèmes de financement mutualisés avec des opérateurs financiers qui sont intelligents et qui n'augmentent pas les prélèvements obligatoires. Donc oui, je pense que c'est possible, mais le bon terme, vous l'avez employé, Emmanuel, c'est le terme de créativité.
Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, directeur du cabinet Asterès et animateur aussi du think tank Écologie Responsable. À très bientôt, Nicolas.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et cette semaine, on s'intéresse à ce travail mené par QNX, une division de BlackBerry, des entreprises françaises prêtes pour la robotique, mais freinées par la complexité réglementaire. Et enquête réalisée auprès de 1000 entreprises qui met d'abord en évidence une transformation profonde de la robotique. Des systèmes de plus en plus pilotés par logiciels intégrant l'intelligence artificielle, appelés à évoluer au plus près des humains, aussi bien dans les environnements professionnels que dans la vie quotidienne. Mais si la robotique continue de gagner du terrain dans les entreprises françaises, eh bien son déploiement à grande échelle reste conditionné par des contraintes particulières. Et en France, ce sont les réglementations qui occupent une place centrale dans les décisions technologiques. 43% des développeurs français citent la conformité réglementaire comme le principal défi dans le développement de logiciels pour la robotique. 67% déclarent avoir déjà subi des retards de projet liés à l'obtention de certifications sectorielles ou au respect de normes sectorielles. L'étude montre que les développeurs français identifient la réglementation et les contraintes de déploiement comme le principal goulot d'étranglement en matière de performance, alors que ils sont moins nombreux à pointer l'architecture logicielle comme un principal enjeu, la réglementation, toujours la réglementation.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et cette semaine, c'est celui de la princesse de la tech. Sur BFM Business, Léa Benaïm. Bonjour Léa.
Je vais venir plus souvent si on me présente comme ça.
Voilà, mais c'est vraiment sincère.
Merci Emmanuel, bonjour.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter Les prédateurs de l'espace de Christian Davenport, livre passionnant autour de la guerre technologique, finalement, dont on parle assez peu.
Mais oui, parce qu'en fait, tous les jours, d'ailleurs, on vous en parle sur BFM Business, on parle de cette guerre de l'intelligence artificielle avec tous ces géants. On peut citer Meta, OpenAI, Anthropic. Ouais. Mais il existe aussi une autre compétition. Celle-ci, elle est plus discrète et elle est tout aussi stratégique. C'est la conquête spatiale. Et là aussi, ce sont des milliardaires de la tech qui sont aux commandes. Alors, dans Les prédateurs de l'espace, le journaliste et auteur américain Christian Davenport raconte en fait comment ces entrepreneurs comme Elon Musk avec SpaceX ou Jeff Bezos avec Blue Origin ont progressivement transformé l'espace en nouveau terrain de jeu. L'auteur a mené plus de 100 interviews où il raconte des réunions confidentielles, des tensions en interne, des négociations avec la NASA ou le Pentagone et bien sûr, Emmanuel, la petite sauce piquante, ces égos gigantesques de ces patrons de la tech. Et parfois, on a vraiment l'impression d'être dans une série Netflix. Il y a par exemple ce passage incroyable qui se passe en 2008. SpaceX, à l'époque, est au bord de la faillite parce que toutes ses fusées explosent. Ça peut nous paraître dingue quand on sait que le 12 juin, SpaceX va entrer en bourse avec une valorisation à 1750 milliards de dollars. Ouais. Mais à l'époque, Elon Musk a littéralement joué sa survie sur un lancement le 28 septembre 2008 exactement. Si la fusée avait explosé, on n'aurait plus jamais entendu parler de SpaceX. Mais vous vous en doutez, Elon Musk a finalement réussi son pari et c'est devenu ainsi ce mastodonte de l'espace.
Oui, et aujourd'hui, ça n'est plus seulement une simple histoire de fusée.
Et non, clairement, la bataille spatiale moderne ne consiste plus simplement à envoyer des astronautes ou des fusées dans l'espace. En fait, le livre montre aussi à quel point cette industrie repose sur des visions presque philosophiques du futur. Certains veulent coloniser Mars ou la Lune, d'autres imaginent déplacer une partie de l'industrie humaine dans l'espace. On a déjà parlé, Emmanuel, de ces data centers dans l'espace. En fait, on a la frontière entre de la science-fiction et un business ultra concret. Le véritable enjeu, c'est désormais les infrastructures. L'exemple parfait, c'est Starlink, la solution de SpaceX qui a déployé des milliers de satellites pour fournir une connexion Internet partout dans le monde. Et il y a aussi Amazon qui est dans la course avec Leo, sa constellation, qui espère devenir un concurrent crédible à Elon Musk. Donc l'auteur Christian Davenport montre très bien qu'ici, on assiste à la naissance d'un nouvel écosystème industriel avec des enjeux gigantesques derrière chaque lancement.
Mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, tous ces milliardaires américains, ils ont les yeux braqués vers l'espace, où c'est vraiment le nouveau terrain de jeu de leur technologie, de l'intelligence artificielle. Et quand on regarde la façon dont des pays en Asie, comme l'Inde ou la Chine, utilisent l'intelligence artificielle, au contraire, on a l'impression, eux, que c'est pour vraiment moderniser la société, le pays, concrètement et pas...
En fait, il y a vraiment deux visions différentes. Ouais. Il y a ces entreprises un peu d'État qui, elles, cherchent à améliorer le quotidien et il y a ces milliardaires de la tech qui, eux, sont vraiment pro-business. Et d'ailleurs, c'est raconté dans ce livre, dernière anecdote, il y a beaucoup de responsables de la NASA qui regardaient à l'époque SpaceX avec condescendance. En fait, pour eux, c'était impossible, voire inimaginable, qu'une petite entreprise privée puisse rivaliser avec ces géants historiques du spatial. Sauf qu'en quelques années, on sait ce que SpaceX est devenu.
Et je peux vous assurer que la condescendance, elle était aussi parfois du côté d'Ariane Espace, quand on voit les discours qui étaient tenus
et bien sûr,
à l'époque sur ces fusées, jamais des lanceurs utilisables, bien sûr.
Et aujourd'hui, sans ces entreprises qui ont des lanceurs, qui savent réatterrir, tout ce qu'est la NASA, l'ESA, ne serait rien.
Merci beaucoup. Princesse Léa, pour...
avec ma couronne la prochaine fois.
Voilà, absolument. Et puis, les petits chignons, comme dans Star Wars.
Ah oui, bien sûr, Princesse Léa.
Ah bah oui, bien sûr.
Ah oui, j'ai la ref.
Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Un focus sur le Global Justice Report qui vient de sortir ces tout derniers jours et qui est une sorte de fiction théorique. Si on veut vraiment à l'horizon 2100 avoir une économie mondiale où on réduit les inégalités, où la planète reste habitable et où tout le monde est prospère, comment on fait ? Ça demande quoi comme hypothèse, ça demande quoi comme contrainte, ça demande quoi comme ajustement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Afrique, ça veut dire pour l'Europe, les États-Unis, sur notre consommation de viande, sur la place des forêts, sur la réduction du temps de travail. Voilà, c'est un travail qui a été fait par le World Inequality Lab, donc Thomas Piketty, Lucas Chancel et puis une quarantaine de chercheurs derrière. Ils ont fait ce rapport qui est pas très épais. Horizon 2100, évidemment, c'est pas applicable demain matin, mais voilà, ça nous donne un scénario possible sur tous ceux qui veulent. La fin du rapport nous dit il y a les solutions techno-nationalistes à la Trump, à l'extrême droite en France. On essaie de vous proposer un autre futur un peu plus désirable. Regardez ce rapport.
Jean-Marc Daniel.
Moi, je vais rendre hommage à Helmut Fetz, qui nous a quitté le 15 mai dernier, donc Edmund Phelps. Christian n'écoute pas pendant 5 minutes, 30 secondes, plus exactement, il a eu le prix Nobel d'économie il y a 20 ans, en 2006.
Pour des travaux que Christian aime bien. Donc.
Oui, alors pour des travaux, d'ailleurs, il y a trois axes qu'il reprend dans son dernier livre, que je recommande, qui est un livre dans le titre, il y a Voyage, dans la traduction qui a été faite chez Odile Jacob, et donc ce voyage dans les théories économiques, il le met dans trois directions. Il a été d'abord un des grands penseurs de la ce qu'on appelle les fondements microéconomiques de la macroéconomie, qui sont des thèses qui sont à l'origine des idées des néo-keynésiens. Il a démontré ce qu'on appelle la règle d'or de la croissance, c'est-à-dire taux d'intérêt égal taux de croissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait de façon géométrique, alors que Maurice Allais l'avait fait avec du calcul différentiel. Donc, c'est toujours intéressant de regarder la façon de penser des Anglais et des Anglo-Saxons par rapport à la tradition des Français. Et puis
Les puristes apprécieront.
Et puis la troisième chose, c'est sur la destruction créatrice, c'est sur Schumpeter. Notamment à la fin de sa vie, il a dit le vrai problème de Schumpeter, c'est qu'il associe l'innovation à l'entrepreneur, à une petite minorité. Oh, une des grandes idées de Phelps, c'est que l'innovation concerne tout le monde et que l'innovation réussit, non pas grâce à quelques individus déterminés et particulièrement audacieux, mais l'innovation réussit parce qu'elle devient la propriété collective. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on avait vu avec Daron Acemoglu, qui nous avait raconté un peu la même chose. Donc, il faut lire et relire Phelps.
Lui aussi avait été notre invité, d'ailleurs, dans la librairie de l'Écho. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture. Merci.